Espace 2.
Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et je vous propose aujourd'hui encore de rejoindre Jean-Sébastien Bach à Gruyère. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire.
Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc.
C'est vous qui nous invitez, qui nous incitez à venir vous rejoindre à Gruyère, où il a été beaucoup question de Jean-Sébastien Bach à la fin du mois d'août, lors du 10e atelier de musique ancienne, organisé à Gruyère, et notamment dans le château de Gruyère.
Dans un château que Jean-Sébastien Bach n'a pas connu, à ma connaissance, et non plus à celle du conservateur du château, le maître des lieux, si l'on veut, que j'ai rencontré au début de cette deuxième émission, et qui nous parle de l'histoire de ce château, justement, au début du XVIIIe siècle, et de la musique qu'on pouvait y jouer. Son nom, c'est Raoul Blanchard, et il vernit cette année, à l'occasion du 10e festival de cet atelier de musique ancienne de Gruyère, un disque de musique médiévale, musique au château, réalisé dans le cadre donc de ces ateliers de musique ancienne avec l'ensemble Musica Prima.
Alors, ce qu'on va faire dans cette émission de musique en mémoire, c'est d'abord on va écouter un petit extrait de ce disque et puis on va rencontrer grâce à vous Raoul Blanchard, le conservateur du château de Gruyère.
Raoul Blanchard, vous êtes directeur ici du musée du château de Gruyère, qui est un musée comme beaucoup de ces châteaux de l'époque médiévale ici en Suisse romande, à Morges, à Chillon, etc. Et on pense toujours qu'aujourd'hui c'est un peu restitué à la manière médiévale. On connaît moins bien la période d'entre-deux de ces châteaux qui ont été souvent en main privée aussi. Quel était l'état du château et son utilisation à l'époque de Jean-Sébastien Bach?
Alors il faut dire que c'est une période qui est extrêmement importante et intéressante pour le château comme pour Gruyère, parce que économiquement c'est la période où le Gruyère connaît vraiment son moment de gloire. On commence à l'exporter dans toute l'Europe.
Le fromage au début du
19e siècle. Le fromage, oui. C'est le Gruyère, le fromage, après la guerre de 30 ans. Et si vous regardez les façades à Gruyère, il y en a beaucoup qui portent des dates du XVIIe siècle. Alors c'est vraiment vers la fin du XVIIe siècle, c'est le début de cet âge d'or. Au château, ce sont les baillis, les administrateurs de Fribourg, qui sont là pour, d'une part, encaisser les impôts, et d'autre part, ce sont des patriciens fribourgeois qui, eux, investissent aussi dans les alpages. Et c'est à cette période-là aussi qu'on trouve que le château, qui date de la fin du XIIIe siècle, a été aménagé encore dans la dernière période des comtes à la fin du XVe, début XVIe siècle, ne convient plus à 100% au confort. Et on commence à décorer des salles. On a une salle des baillis avec un décor baroque de 1685. Ce qui est intéressant, c'est l'année de naissance de Jean-Sébastien. Lors de la restauration de cette salle, on a d'ailleurs découvert que, je pense, une des raisons pour refaire le décor de la salle est les graffitis qui se trouvent sur les murs. Alors, les visiteurs du château ont profité de laisser un témoignage. Alors, vous voyez que c'est pas de nos jours qu'on a inventé les graffitis. Et vous avez des murs où on a quelques graffitis de la fin du 16e, début 17e siècle, qui nous rappelle cette période avant la période baroque.
Mais pas des noms célèbres, bien, parce que je crois qu'il y a Byron qui a laissé sa marque à Chillon, mais ici, il n'y a pas eu de visiteurs au 17e.
Malheureusement pas. Ce qui est intéressant, il y a par exemple des dessins avec un costume espagnol. Alors il y avait des gens, je pense, qui s'intéressaient vraiment à la mode et qui nous ont laissé des témoignages, quelque part vraiment d'actualité. Pour le XVIIIe siècle, c'est une période où on commence refaire les lambris et tout cela, mais les lambris, aujourd'hui, on ne les connaît plus dans l'état du XVIIIe siècle, on les connaît dans l'état du XIXe siècle, puisque quand le château a été vendu au milieu du XIXe siècle, à des Genevois, la famille Bovy, ils sont arrivés ici, ils ont sauvé le château et ils ont essayé d'effacer un maximum tout ce qui rappelle la période des baillis.
Donc on passe en main privée depuis les mains publiques où il était jusqu'au 18e, jusqu'à la fin du 18e.
Il était jusqu'en 1938 en main privée avant de retourner à l'état de Fribourg. Alors cette famille, elle enlève quelque part un peu les traces de la fin de la vie de Jean-Sébastien. On a des lambris baroques, mais aujourd'hui décorés avec des peintures merveilleuses, paysages et autres du 19e siècle dessus.
Mais les baillis fribourgeois qui occupaient le château vivaient comme des seigneurs à l'époque, autour de 1750 ?
Je crois que oui. En même temps, bon, pourquoi est-ce que je peux vous dire ça ? On a des... dans les contes, la comptabilité est toujours un élément intéressant pour les historiens parce qu'on retrouve ce qu'on dépense. Et on a la broche mécanique qui apparaît au début du XVIIIe siècle, broche mécanique qui fonctionne avec un contrepoids et qui est souvent sujet de réparation. Alors ça signifie que cette broche n'était peut-être pas à 100% solide, mais d'autre part souvent utilisée. Et cette broche mécanique est toujours là dans notre cuisine.
C'est juste à côté.
Qui nous témoigne un peu de, je pense, de quelques repas agréables pendant cette période. Il faut dire que le bailliage de Gruyère est un petit bailliage, mais qui était intéressant d'une part, important, et d'autre part, quand on sait que le bailli était payé en fonction de ce qu'il encaissait, alors et que le Gruyère était un produit bien vendu, alors on comprend que les patriciens se ruaient sur ce poste d'administrateur à Gruyère, un poste qu'ils occupaient pendant 5 ans.
C'est une légende ou est-ce que vraiment la population gruérienne était assez opposée à ces émissaires de la capitale cantonale Fribourg? Il y a toujours ces rivalités qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui.
Alors c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Où vous avez des baillis, je pense ces fonctionnaires-là étaient peu appréciés dans le canton de Fribourg comme dans d'autres cantons. c'est en même temps aussi un reflet de, d'un pays qui, à la fin de l'ancien régime, qui n'avait plus envie des structures de l'ancien régime. Et cet ancien régime va tomber en 1798, très très vite, lors de l'invasion de troupes françaises. On avait vraiment envie de faire autre chose.
Le château de Gruyère a été assailli par les révolutionnaires ?
Il est tombé tout court, le bailli est parti avant. Le château de Gruyère n'a jamais été, d'une part, pris par l'ennemi, ni par les fribourgeois, ni par d'autres. Et il a connu aucun incendie, alors il a été épargné de tout ça. Notre spécialité, c'est de faire faillite.
Et c'est arrivé au XVIIIe siècle, Raoul Blanchard ?
Alors, c'est arrivé au XVIe siècle. Et ensuite, la vente du château pour 7000 francs. Il y avait un entrepreneur au 19e siècle qui voulait l'acheter pour 2500 francs pour le raser, pour avoir les pierres, pour construire des fermes. Et c'est grâce aux Genevois qui ont investi 7000 francs pour le château qu'il existe encore.
Bon, 7000 francs de l'époque, c'est déjà un peu plus qu'aujourd'hui, je pense.
C'était une somme raisonnable. Il faut quand même dire, on est au milieu du 19e siècle, c'est une période juste après la guerre, d'investir autant dans une ruine, c'était quelque chose, mais c'est pas une somme exorbitante.
Une ruine qui a quand même été conservée complètement, puisque vous dites qu'elle n'a jamais été détruite.
Elle n'a jamais été détruite. Les Bovis se plaignent du mauvais état du château. C'est possible que, effectivement, l'État de Fribourg n'ait plus investi beaucoup d'argent au 19e siècle. D'après, on voit aussi dans la comptabilité de l'État qu'on fait un strict minimum dans l'entretien. Et ensuite, en même temps, les Bovis, Daniel Bovis, un des fils de la famille, un artiste peintre mélancolique et en mauvaise santé, qui ici retrouve quelque part de nouveau un but pour sa vie, lui va se consacrer jusqu'à sa mort à ce château et lui va refaire le château des Comtes de Gruyère en effaçant tout ce qui rappelle le style baroque.
Je sais que la musique de Liszt a peut-être résonné ici. Il y a un piano, Raoul Blanchard, qui le rappelle un peu. Mais est-ce qu'on sait quelque chose de la musique au XVIIIe siècle ici, dans ce château ? Est-ce que les baillis avaient une sorte, pas une cour musicale, j'imagine, mais des musiciens qui se produisaient ? Est-ce qu'on a des traces de cela ?
Ce sont quand même des gens qui ont une formation, qui ont une sensibilité. Je crois que certainement, ils étaient aussi sensibles à la musique. Et depuis le Moyen-Âge, il y a une continuité dans la musique. On la retrouve aussi au 19e siècle avec la famille genevoise, Bovis. Il y avait Bovis Lisper qui était ici. Et d'après les journaux que nous possédons encore, dans les journaux, on voit qu'on passait les soirées en chantant, en dansant. Il y avait un piano dans le salon Corot, qu'on appelle aujourd'hui salon Corot grâce au paysage peint par Corot. Alors on sait qu'il y a certainement une continuité musicale. Actuellement, ce serait peut-être un travail de recherche de savoir qu'est-ce qui était vraiment à la mode au XVIIIe siècle ici au château de Gruyère.
Et vous, Raoul Blanchard, qui êtes le conservateur, vous savez s'il y a des traces documentées de musique, on parle de Bach bien sûr toute cette semaine, de musique française ou allemande qui aurait pu être interprétée ici ?
Alors je pense plutôt française, parce qu'on a toujours l'impression, puisque la langue officielle à Fribourg était l'allemand, que ces baillis parlaient l'allemand. Bien sûr qu'ils parlaient l'allemand, puisqu'ils avaient des terres aussi en Saint-Gilles et ailleurs, mais ces gens étaient francophones. C'était des patriciens fribourgeois qui parlaient le français comme on le parle encore aujourd'hui. Pour les Français, c'est peut-être pas bref. Mais ils avaient des contacts avec Paris, et c'était des gens qui avaient surtout une sensibilité pour la culture, pour la musique française. Et le peuple ici en Gruyère était plutôt un peuple qui avait ses propres traditions de la musique. Mais je pense que les comtes à Gruyère étaient surtout orientés vers Paris et avaient, comme on le fait encore aujourd'hui, toujours un tout petit peu envie d'imiter ce qui se passait à la capitale.
On sait s'il y avait des viols, si on peut trouver un instrumentarium qui serait conservé ou qui serait documenté du château.
Pour l'instant, j'ai rien trouvé, ce qui ne signifie pas qu'on ne pourrait pas, à un moment donné, il faudrait qu'on fasse une fois aussi des recherches pour savoir est-ce qu'il y a un inventaire de quelque chose. Pour l'instant, ce travail reste encore à faire.
Provençal, des poètes et des musiciens qui soient passés par le château de Gruyère, c'est tout à fait plausible.
On est longtemps avant Bach, mais alors les troubadours, on peut jouer ici.
Ces éditions avec des styles de musique différents, y compris de musique médiévale, m'a toujours semblé que c'était un endroit où ça avait dû être une réalité.
Alors, je crois aussi qu'il y a une caricature des baillis ici, comme c'était des gens complètement... rustres et autres, je crois pas. C'était des patriciens.
Des aristocrates, des deux, quelque chose.
Et ils arrivaient ici, c'était les seigneurs, ils avaient le comportement qui était dû à un seigneur à l'époque baroque, où aussi le cérémoniel avait une importance énorme, sans arriver, je dirais, aux exigences de la cour de Louis XIV, mais ici, on était à quelques degrés inférieurs quand même dans la même période et dans la même pensée. Et le comportement des baillis était naturellement aussi dû à une société qui voulait qu'ils se comportent ainsi. D'avoir le comte ensuite, il y a ces légendes qui disent que le comte était tellement proche du peuple. Il y a un petit côté légendaire, certainement aussi dû à notre famille des Beuvilles qui remet en image la période des comtes, mais en même temps, le 15e siècle n'est pas le 18e siècle. Il y a un rôle social à jouer par un bailli qui n'est pas celui du comte à la fin du 15e siècle. Ça, c'est un François Ier n'a pas la même façon de se comporter qu'un Louis XIV. C'est clair et net.
Et le village, on sait quelque chose du bourg de Gruyère qui est juste au pied du château. Raoul Blanchard, à cette époque du XVIIIe siècle, c'était tous des fabricants de Gruyère. Vous parliez de la cote qu'avait le fromage à l'époque.
C'est une période où on a les commerçants, on a bien des gens qui vivent d'une manière ou d'une autre de la production du fromage.
Donc les commerçants, il y avait déjà des gens qui vous montaient à Gruyère de façon touristique acheter du fromage?
Non, commerçant, c'est plutôt... L'époque touristique arrive qu'au 19e siècle. Et vraiment, touriste, c'est au moment où l'État de Fribourg rachète le château. C'est en 1940 qu'il l'ouvre au public. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un nombre de visiteurs qui est quand même limité, qui est entre 5 et 10 000 visiteurs. Et ça commence quand même à exploser dans les années 50. On a la voiture individuelle, les gens se déplacent, il y a les caristes qui arrivent à déverser des visiteurs à Gruyère. Dans les années 60, le château dépasse pour la première fois les 100 000 visiteurs par année. Et actuellement, on est à presque 200 000 visiteurs. Les commerçants vont plutôt vendre le fromage, c'est-à-dire qu'ils vont le vendre ailleurs, pour le distribuer ailleurs. Et pourquoi est-ce que je peux dire que c'est une période qui est économiquement intéressante ? Regardez tout simplement les dates inscrites sur les façades et vous avez énormément de bâtiments qui ont été agrandis, transformés à partir du XVIIe siècle, qui portent des dates 1618, 1648 ou des dates autrement. Alors, vous agrandissez votre maison quand tout se passe bien.
Mais le village est fermé, il y a des remparts encore aujourd'hui qui le ferment. Qui sont ces gens qui vivent dans le village ? Ce sont donc des commerçants qui sortent vendre leurs produits ailleurs. Ce ne sont pas des fermes, donc c'est vraiment des artisans peut-être ?
Et juste pour dire, c'est une ville minuscule, mais pas un village. Pourquoi ? Depuis le Moyen-Âge, Gruyère a une franchise d'une ville, les remparts, le marché, une église paroissiale, une importance d'une ville. Et à Gruyère, vous avez des citadins qui, eux, vont vivre de l'économie, surtout du fromage. Le tourisme, ça c'est, je dirais, le gagne-pain du XXe siècle. Gruyère a aussi profondément changé son aspect. Le visiteur qui arrive à Gruyère rentre en principe par la petite porte, qui n'est plus une petite porte, c'est une brèche dans le rempart. Cette porte de Chavonne a été détruite pour donner un accès plus agréable avec la route qui monte à Gruyère. Le visiteur, jusqu'au XIXe siècle, rentre par des chemins quand même assez pénibles du côté nord, vers le Belluard, ou du côté sud, vers l'église. Alors c'est le confort du tourisme qui ouvre cette brèche dans le rempart, et quelque part, le touriste rentre par la mauvaise porte dans la cité de Gruyère.
Qui était donc uniquement la bourgade à l'intérieur des murs.
Tout à fait. Et c'est vraiment nos villes vivent jusqu'au XIXe siècle d'une manière médiévale. On ferme les portes, on sonne les cloches aussi pour dire, eh bien, si vous voulez encore rentrer, c'est la dernière minute. C'est quelque chose que le XIXe siècle va supprimer.
Vous qui écoutez Musique en mémoire et qui ne connaissez pas forcément intimement le château de Gruyère, David Maestri, on passe du château, là, à l'église.
À l'église, cette très belle acoustique de loin pour entendre un claveciniste en train de se préparer au premier concert de ce 10e atelier de musique ancienne autour de Jean-Sébastien Bach en août dernier. C'était le 24 août, il y avait un concert de sonates pour viol et clavecin. Emmanuel Guig, la violiste, et Bruno Procopio, qui est un claveciniste d'origine brésilienne, qui sera à mon micro tout à l'heure.
Oui.
Et j'ai aussi rencontré, dans le cadre de ce stage de lutherie, le luthier de clavecin, si on peut le dire comme ça, le facteur de l'instrument qui est joué ici, c'est Jean-Michel Chablot, qui est dans le canton de Fribourg aussi, et qui fait de très beaux instruments, dont cette copie d'un clavecin allemand.
Alors à votre micro, David Maestri, Jean-Michel Chablot.
Et puis ça dépend aussi de la tension que vous avez sur l'instrument. Par exemple, le mid-key que j'ai là, il n'y a quasiment jamais une corde qui lâche parce qu'il y a une tension relativement faible.
Au détriment de la puissance, non ?
Au détriment de l'attaque. Ouais, disons, il a une attaque un tout petit peu plus molle que si on va chercher le point de rupture de la corde. En principe, c'est vrai qu'on faudrait corder un petit peu plus gros. Mais ici, c'est très intéressant parce que ça a donné un... C'est un de mes premiers instruments. Et puis, c'est vrai que ça lui a conféré une sonorité très intéressante, assez sombre.
Qui ferraille moins.
Alors, très rond. Bon, ça, c'est aussi un petit peu la propriété des instruments allemands ou italiens, d'être beaucoup moins brillants que les franco-flamands.
Vous sentez chez vous ici, Jean-Michel Chablot, dans un atelier de lutherie de...
Alors moi, je suis juste de passage, je suis juste en visite, là, parce que j'attends que l'instrument se tempère un peu dans l'église avant d'accorder. Et puis, j'en ai profité pour faire un saut.
Et c'est des bois, des outils qui vous parlent ?
Ah ben, voilà, ça ressemble évidemment à mon outillage. Le cadre est un tout petit peu plus médiéval que mon atelier.
Vous avez déjà fait des clavecins très anciens, d'une époque avant le baroque, comme ça ?
Ouais, je me suis assez peu essayé à des instruments, hormis des Italiens, mais on est déjà dans le XVIIe siècle. C'est vrai que bon, on peut pas vivre seulement de passion, il faut aussi vivre avec des instruments qui correspondent à la demande d'aujourd'hui. Mais je demanderais pas mieux. Je demanderais pas mieux d'avoir des intéressés pour des instruments un peu spéciaux. Hein.
Et puis de voir travailler une équipe comme ça, avec un maître luthier et puis 6 ou 7 paires de mains supplémentaires, ça serait bien. Vous êtes solitaire aussi dans votre travail.
Tout à fait. Ouais. C'est très intéressant parce que je me suis toujours demandé, en pensant à cet atelier de lutherie, comment on pouvait réaliser un instrument en une semaine. Alors, je vois un petit peu... on m'a dit qu'il y avait quand même un certain nombre de pièces qui étaient préparées ou...
Je crois que le moule a été fait avant ici pour la petite viole.
Voilà, mais c'est quand même un défi à quelques personnes de réaliser un instrument en si peu de jours. Quoi. On discutait avec Philippe juste avant de savoir si le jeu serait possible avec un clavecin ou un instrument de la famille des claviers. J'y ai déjà réfléchi, mais honnêtement, je pense qu'il faudrait quand même un stage un tout petit peu plus long.
La facture du clavecin regroupe beaucoup plus de spécialités. Non, il y a beaucoup de. Vous parliez des cordes à l'instant. Il y a beaucoup de parties qui sont dehors du travail du bois directement.
Tout est dans le travail du bois, mais tout est long. Je veux dire, du travail sur des claviers, c'est quand même extrêmement long. C'est quand même extrêmement, au bout d'un moment, rébarbatif quand même. On passe quand même d'une touche à l'autre. Voilà, puis il faut faire les 61, etc. Non, c'est le moindre travail. Je veux dire, même si vous passez déjà une journée sur le clavier, ce serait déjà un minimum pour... il faudrait qu'il soit déjà vraiment prêt, qu'on ait peut-être plus qu'à le balancer ou... Voilà. Je pense qu'il y aurait vraiment un gros travail de préparation avant de commencer le stage pour que ce soit possible.
L'instrument que vous avez amené ici, donc un Mitke, donc d'après une facture allemande de l'époque de Bach, va jouer Bach ce soir et demain et aussi samedi.
Donc début 18e, donc effectivement les concerts, en tout cas ce soir, sont les sonates pour viol de gambe et clavecin de Bach. Je ne connais pas le programme de samedi soir joué par Jovan Kamarville. C'est un instrument du début 18e, berlinois, dont l'original est encore visitable aujourd'hui, bien que dans une collection privée, donc moins accessible que dans un musée. C'est un magnifique instrument. Je veux dire, c'est un petit peu la mascotte de tous les facteurs de réaliser un instrument comme ça. Je dirais que c'est un des modèles courants et bien connus allemands.
Et puis il servira aussi pour le concert des cantates dimanche, ou ce sera un autre instrument pour le continuum avec voix?
Je présume que ce sera l'orgue positif.
Et vous êtes presque voisin ici, Jean-Michel Chablot, puisque vous êtes à Châteaudet, c'est ça?
Non, plus. J'étais. C'est vrai que sur l'instrument, il y a toujours l'intitulé sur au-dessus des claviers avec effectivement Châteaudet, mais maintenant je suis à Manance, ce illustrement inconnu, juste au-dessus de Payerne quand on entre sur le canton de Fribourg en direction de Matran.
Donc vous avez quitté un peu ces montagnes du pays.
Voilà, je me suis un petit peu centralisé en Suisse romande, surtout pour notamment les locations de concerts, et puis avoir un petit peu moins de déplacements, parce que c'est vrai qu'à Châteaudet, c'était sympa pour les vacances, c'est la montagne, mais pour les moindres fournitures, il faut tout de suite partir et faire de la route en pleine, donc c'est coûteux.
Vous avez déjà rencontré Bruno Procopio, vous le connaissez
Si, je le connais, il est déjà venu chez moi, on a déjà fait une tournée pour voir un petit peu quelques instruments que j'ai faits. Il y a une année ou deux hein, qu'il a passé, donc il va jouer. Je lui ai amené l'instrument qu'il avait préféré lors de cette tournée.
C'est l'écriture manuscrite de Bach, Bruno Procopio.
Ça, c'est plutôt l'écriture manuscrite. C'est plutôt l'écriture de son fils, Carl Philipp Emanuel Bach. Ouais. Mais ça, en l'occurrence, c'est un facsimilé. Donc, c'est ce qui était édité de son vivant.
Ouais.
C'est la partition qui était en fait gravée, mais c'est vrai que la gravure imitait un tout petit peu ce qu'on faisait à la main. C'est pour ça que ça donne l'impression que les choses sont manuscrites, mais en effet, les lignes sont tordues pour donner cette ambiance, on va dire.
Et vous apprivoisez cet instrument maintenant, après quelques gammes et autres essais?
Ça, c'est toujours la bonne question à poser au claveciniste. Je me pose la question. Est-ce qu'on apprivoise toujours son clavecin? Je pense que plus ou moins. Découvrir un clavecin le jour même du concert pour la musique virtuose, c'est toujours un vrai défi. Un vrai défi pour plusieurs raisons. Les tailles des touches ne sont pas forcément les mêmes sur chaque modèle d'instrument. La dureté des touches non plus. La profondeur de touches non plus. Donc, ce qui fait que ce sont beaucoup de paramètres qu'il faut, en gros, l'apprivoiser pour pouvoir en faire. Bon, quand on joue chez soi sur son propre instrument, on se dit à l'aise. Mais des fois, on le sort pour faire des concerts, on trouve aussi difficile. Le clavecin, c'est un instrument très délicat. Et que apprivoiser, ça veut dire le faire chanter. Et le faire chanter, c'est toujours, là, en l'occurrence, le plus grand défi.
Il y a des réglages à faire encore jusqu'à ce soir, non?
Non, il n'y a pas de réglages à faire parce que c'est un bel instrument construit par Jean-Michel Chablot, ce qui est d'ailleurs du coin. L'instrument est très joli. Là, c'est plutôt une question d'adaptation, on va dire, personnelle à la chose. C'est le pouvoir d'adaptation qui fait qu'on peut plus ou moins, en fonction de la détente, de la fatigue, de la bonne humeur, de l'apprivoiser en fonction de ces paramètres-là. Mais l'instrument, il est en parfait état.
C'est très différent alors de l'attitude des violistes ou des instruments à cordes où chacun a un instrument, souvent des instruments historiques qui ont aussi un son. Donc, c'est un instrument vraiment idéal pour jouer Bach, à votre sens?
Oui, cet instrument, c'est un instrument qui est à Charlottebourg, donc c'est un instrument qui est à Berlin.
Il y a l'original, donc une copie.
Le modèle s'appelle Mitzk. Donc cet instrument se trouve en Allemagne et c'est une copie de cet instrument qui, hélas, ne joue plus. Mais les dimensions sont les mêmes. C'est une copie fidèle de l'instrument d'origine. Donc évidemment, les violistes, quand ils ont des instruments originaux, pas tout le monde a la chance d'en avoir un Lewis, comme est le cas d'Emmanuel Gigue ce soir, qui a un instrument original sublime et bien réglé.
Et vous allez jouer ces sonates de Bach que vous avez enregistrées il y a maintenant plus de 5 ans, juste 5 ans. Vous les avez beaucoup joués entre deux avec Emmanuel Gigue.
On se disait, on ne joue jamais assez cette grande musique pour plusieurs raisons. Je trouve que les organisateurs de concerts cherchent toujours à avoir des choses plutôt nouvelles et plutôt, on va dire, qui tapent un peu à l'œil.
Ah oui, dans la musique baroque, c'est le contraire de la musique romantique, où on demande toujours les mêmes concertos.
Et finalement, c'est juste l'opposé. Dans la musique baroque, on cherche toujours la nouveauté, donc on se trouve plutôt à faire des programmes très ciselés pour donner une ou deux fois, que vraiment, je trouve facile de vendre de cette musique-là, qui est finalement un patrimoine commun depuis deux siècles. Et finalement, on fait finalement peu par rapport à l'effort qu'on a fait au départ de les monter et de faire ce disque qui a très bien marché. Et finalement, les organisateurs ne sont pas si friands que ça de la très grande musique très connue. Mm-hmm. En tout cas dans le baroque, c'est l'impression que j'ai.
Et puis, vous avez en ouverture de programme un nom qui m'est complètement inconnu, qui s'appelle un allemand apparemment, Rouet.
Rouet, exactement. Il m'était inconnu, hein. C'était un violiste qui a fait la musique pour viol, donc c'est Manuel qui me l'a proposé. Il est contemporain de Carl Philipp Emanuel Bach, c'est pour ça que je vais changer le programme pour jouer du Carl Philipp, et vu que c'est un instrument du modèle du même compositeur. Donc ce compositeur Rouet, il a fait peu de choses, mais ce sont peu de choses qui ont été pas éditées, donc on trouve ça en manuscrit. Édité aujourd'hui, mais en manuscrit, donc c'est une musique qui n'est pas connue du tout. Il ressemble un peu à Carl Philipp Emanuel Bach, justement.
Les trois sonates de Bach pour viol de gambe et clavecin sont un corpus ensemble dont on ne sait pas exactement. Donc, les musicologues se disputent la date de création, si c'est l'époque de Köthen, où on sait qu'il a pu côtoyer des violistes, ou plus tardive, quel est votre avis à vous qui jouez beaucoup de Bach?
Je suis pas d'avis très précis, étant donné que je suis peu musicologue. Certes, il a fait ça dans les années 40, on va dire. Donc assez tardif. Il avait un contact avec ce grand violiste qui était Abel, ce compositeur violiste qui était très connu à l'époque. Donc on peut imaginer qu'il a fait ça. Il y a d'autres théories qui disent que c'est plutôt une musique qu'il a fait plutôt. En tout cas, ce sont trois sonates, mais qui finalement sont trois sonates très différentes une de l'autre. Donc la première est plutôt dans les styles proche, enfin apparenté de très loin à la musique de Corelli, ce qu'on appelle la sonate d'église avec ses quatre mouvements. Celle en sol mineur, c'est vraiment très proche de ses concertos brandebourgeois comme style, en tout cas celle pour alto. Et donc c'est une musique très italianisante. Et finalement, la ré majeure est aussi, avec ses quatre mouvements, extrêmement virtuose, mais avec une écriture beaucoup plus épurée. Donc du coup, c'est difficile à la placer dans un temps déterminé, parce que c'est vraiment, comme souvent chez Bach, hein, ce sont des musiques très variées, qui racolent ça des fois dans un recueil, et pourquoi elles sont ensemble. Parce qu'il a composé au même moment, mais c'est vrai qu'il fait des emprunts des fois sur des musiques beaucoup plus anciennes, donc c'est très difficile à dater par rapport à un style.
Est-ce que l'interprète que vous êtes, Bruno Procopi, a une préférence pour une des trois?
J'ai une préférence, ça dépend des jours. J'ai une préférence en beauté en sol majeur, je trouve ça vraiment magnifique. Mais c'est techniquement assez facile à jouer et finalement ça devient très difficile à bien faire. C'est une écriture très, très linéaire, très épurée, très peu chargée. Et finalement, la rendre bien, due finalement au peu de notes, dépend des beaux instruments et des belles acoustiques. Donc finalement, celle que j'aime le plus, c'est finalement celle qui paraît la plus facile à jouer. Ce sont les plus difficiles vraiment à rendre ça bien. Donc finalement, c'est toujours comme ça dans la grande musique. On pense que c'est très bien, mais en fait, c'est pour que ça soit très bien, et on a besoin de beaucoup de paramètres. Et ce paramètre, c'est l'instrument qui va avec, c'est la bonne acoustique, c'est si on est détendu ou pas. Et finalement, là, je pense que la beauté, c'est ça. On dit après coup, ah, c'est là, j'ai bien joué, je suis content.
Est-ce qu'accompagner au clavecin, enfin pour Bach, c'est pas un accompagnement, c'est vraiment une voix principale, mais jouer avec une viole de gambe, c'est très différent de jouer ses sonates ou d'autres choses avec violoncelle ou avec un violon?
Oui. Pour parler de la musique de Bach, il n'y a pas de musique de Bach pour violoncelle et clavecin. Donc il a fait ça en pensant déjà à la viole de gambe. Donc pour penser viole de gambe, violon, je connais bien les sonates pour violon que je joue régulièrement. La grande difficulté de ces sonates de viole de gambe, c'est que c'est déjà une écriture à trois. Donc ça veut dire que la main gauche, la main droite du clavecin, et ce sont des voix par entière. C'est une polyphonie à deux voix.
Comme les pièces pour violon d'ailleurs.
Comme la pièce pour violon, exactement. Et donc il y a cette troisième voix qui est la gambe. Donc finalement, ce n'est pas pour viol de gambe et clavecin, c'est plutôt pour main droite, main gauche et viol de gambe, en quelque sorte. Donc ce qui est difficile, c'est ça, c'est que la viole, elle sonne beaucoup dans la région médium, et donc il faut des clavecins qui ont plutôt des beaux aigus et des graves assez clairs pour que cette polyphonie puisse sortir. Donc finalement, la grande difficulté, ce n'est pas de l'ordre technique, mais c'est de l'ordre polyphonique, et là, malheureusement, je pense que nous, les exécutants, ne sommes pas pour beaucoup. Donc finalement, quand on prend des instruments qui ne vont pas avec cette musique-là, c'est toute la difficulté. Du coup, ça sonne mal, ou ça sonne pas aussi bien. Et quand on prend des instruments qui ont plutôt une sonorité claire et très polyphonique, donc du coup, ça facilite le travail. D'ailleurs, aujourd'hui, pour ce concert, on a essayé plusieurs positions pour qu'elle puisse bien m'entendre, que je puisse bien l'entendre, et où j'entends bien, elle n'entend pas bien. Donc finalement, c'est jamais confortable pour les deux. En concert, j'entends bien.
Faudrait qu'il me dévoie d'un côté, l'autre main de l'autre côté ou...
Ce qu'il faudrait, c'est des acoustiques qui soient généreuses, mais pas très résonantes. Dans le cas de cette église, qui est très résonant, le son se mélange. Et donc, du coup, quand on joue de la polyphonie et quand on perd un peu le discours dû à la résonance, on a l'impression de se dire « on est bien, on n'est pas bien ». Et donc, le fait de se poser des questions, c'est déjà pas bon. Mmh. Donc, la difficulté, c'est ça, c'est trouver un endroit où la polyphonie est vraiment claire.
Et le fait d'avoir deux claviers, c'est plus pratique pour cela? Ou bien vous utilisez différents registres?
J'utilise différents registres pour des questions dynamiques, pas pour des questions polyphoniques. Donc évidemment, quand je peux, quand l'écriture permet, je navigue d'un clavier à l'autre justement pour mettre en évidence. Mais comme le clavecin n'est pas un instrument dynamique, finalement c'est une question de palier. Quand on veut bien faire par exemple une phrase avec un début, un milieu, une fin, en passant par des crescendo et diminuendo, c'est vrai qu'au clavecin on est un peu... pas à l'abri. Et donc, du coup, c'est en fait l'effet d'avoir deux claviers, ça aide à tricher en quelque sorte. C'est avoir un palier fort, un palier doux, mais c'est jamais un palier en crescendo comme la viole qui est extrêmement dynamique. Donc, pour nous, c'est tout le boulot justement de faire en sorte et créer une fausse ambiance d'imitation, parce qu'elle joue une mélodie et je la répète au clavecin. Et donc, si je fais d'une manière très différente, c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc, tout mon art, ou toute ma triche, c'est justement pour essayer d'imiter le plus possible cet instrument qui finalement est très, très généreux. Je parle bien de la viole.
David Mécherie, ce qu'on entend a eu lieu lors de ce festival de musique ancienne de Gruyère.
C'était dans l'église vide encore de Saint-Théodule de Gruyère, la préparation, la répétition de Bruno Procopio, qui était à mon micro, et d'Emmanuel Guig, qu'on rencontrera demain, la violiste. Le premier concert de ce 10e atelier de musique ancienne de Gruyère. Je vous propose de nous quitter aujourd'hui avec la musique extraite du second de ces concerts Bach. Il était signé pour l'interprétation Jovanka Marville, sous les micros d'Espace 2, avec la régie musicale de Gérard Alla et le prise de son de Blaise Favre. Et c'était la suite française, la 5e en sol majeur de Bach.
quelques accents d'un concert donné le samedi 25 août par Jovanka Marville, œuvre de Jean-Sébastien Bach, donc dans le cadre de ce 10e atelier de musique ancienne qui a eu lieu à Gruyère et dont nous vivons quelques instants grâce à vous, David Mestri, cette semaine. Alors merci à Blaise Favre et Gérard Halla pour le son de ce concert, et puis à Christophe Seiva pour sa réalisation de musique en mémoire, à Isabelle Watson pour son assistance à la production, une proposition de